Alors, bonjour à tous, bienvenue. Alors la salle était un peu encore configurée version concert de hier soir, pour ceux qui étaient là. Et ce matin, bienvenue pour ce temps de culte. Petit mot juste pour les mamans, bonne fête à toutes les mamans. Merci, effectivement. Hein. Des fois un peu j'oublie, mais voilà, y a des gens qui sont bien gentils de nous rappeler. Et merci à toutes les mamans pour tout. Alors bienvenue pour ce temps de culte. Quel que soit votre parcours, quand je parle de parcours, c'est si vous avez bien dormi cette nuit ou pas, si vous avez eu une bonne semaine ou pas. Mais votre parcours, c'est aussi ce que vous avez vécu dans votre histoire personnelle depuis des années. Donc quel que soit votre parcours, quel que soit dans l'autre sens votre horizon à court terme aujourd'hui, cet après-midi, ou à plus long terme, eh bien, soyez les bienvenus, parce que Dieu vous accueille, Dieu nous accueille chacun et chacune. Alors la semaine passée, Claude nous a proposé de nous saluer parmi, et de faire un peu connaissance avec nos voisins. Et alors, je ne sais pas si vous vous souvenez des prénoms de vos voisins, parce que des fois, on se retrouve un peu aux mêmes places, donc on retrouve un peu les mêmes voisins. Et alors ce matin, ce n'est pas pour en faire une habitude, mais on avait quand même envie de vous proposer de nouveau de prendre 2-3 minutes pour vous lever, saluer vos voisins, vous rappeler leur prénom ou qu'ils rappellent leur prénom. Et puis, je vous propose même de répondre ou de poser une ou deux questions, un peu pour faire connaissance, des questions du genre « Enfant, qu'est-ce que je voulais faire quand je serais grand, quand j'étais enfant ?» Ou bien alors « Tiens, si je devais commencer une nouvelle activité, qu'est-ce que j'aimerais bien faire, découvrir comme activité ? » Ça peut être de la musique, du sport, etc. Et puis, si vous voulez rester dans une version un petit peu plus église, vous pouvez dire « Quel est votre verset préféré ?» Non, c'est à vous de voir, hein. J'impose rien. Alors, je vous propose de vous lever, simplement, et de dire bonjour à vos voisins, de nouveau, les saluer, faire connaissance un petit peu plus.
Je n'ai pas été jeune, mais trop tôt, c'est un petit peu compliqué.
Alors, je vous invite à reprendre place. Voilà, ça fait plaisir de voir ces discussions qui commencent. Je suis désolé de les interrompre. Ça se fait tranquillement. Ouais. Merci de bien vouloir reprendre place. On va poursuivre. Il y aura toujours le temps à la fin du culte de continuer ces discussions. Et si jamais il y a de la place devant encore pour les enfants, il y a un banc qui reste et puis des chaises. Donc les enfants, vous êtes les bienvenus devant pour cette première partie du culte. Alors, je vous invite à continuer en priant le Dieu qui nous rassemble, le Dieu qui nous connaît par nos prénoms, qui connaît nos aspirations les plus profondes, qui connaît nos rêves, nos désirs, et qu'on puisse se confier à lui pour ce temps de culte. Et je reprends des petits bouts qui apparaissent souvent dans des psaumes, dans cette prière. Notre secours nous vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alors notre Père, riche en miséricorde, plein de grâce, la sagesse et la justice te précèdent. La paix et la justice sont à ta droite. Seigneur, au-dessus des cieux, tu es Dieu. Alors prête attention à notre prière dans le nom de Jésus, lui qui est notre grand prêtre, notre médiateur, qui intercède auprès de toi, Père. Prête attention à notre prière afin que nous puissions te servir, nous-mêmes comme prêtres, nous, ton propre peuple, car tu es notre Dieu, toi seul. À toi soit l'honneur, la louange, à toi soit la gloire, Père, Fils, Esprit Saint, Dieu un, pour toute éternité. Amen. Ce n'était pas un verset spécial, c'était différent. C'était différents psaumes, c'est un mélange, et pas juste un.
Un des titres que Jésus, ou peut-être les écrits, ceux qui ont écrit la Bible, ont utilisé pour Jésus, c'est l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. On peut louer Jésus pour qui il est, on veut le remercier pour ce qu'il a fait pour nous. Et je vous invite à vous lever pour chanter à l'agneau sur son trône, Jésus qui aujourd'hui est ressuscité, qui est vivant, qui est parmi nous. On veut le célébrer, on veut lui chanter, parce qu'à lui soit la gloire et la louange.
Conquise sur la terre, il est le roi. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire.
Vous asseoir.
Praise the Lord, my soul. All my inmost being praise his holy name. Praise the Lord, my soul, and forget not all his benefits, who forgives all your sins and heals all your diseases, who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion, who satisfies your desires with good things, so that your youth is renewed like the eagles. The Lord works righteousness and justice for all the oppressed. He made known his ways to Moses, his deeds to the people of Israel.
O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó.
인생은 그날이 풀과 같으며 그 영화가 들의 꽃과 같도다. 그것은 바람이 지나가면 없어지나니 그 있던 자리도 다시 알지 못하거니와 여호와의 인자하심은 자기를 경외하는 자에게 영원부터 영원까지 이르며 그의 의는 자손의 자손에게 이르리니 곧 그의 언약을 지키고 그의 법도를 기억하여 행하는 자에게로다. 여호와께서 그의 보좌를 하늘에 세우시고 그의 왕권으로 만유를 다스리도다.
Praise the Lord, you his angels, you mighty ones who do his bidding, who obey his word.
Bendigam o Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade.
여호와의 지으심을 받고 그가 다스리시는 모든 곳에 있는 너여 여호와를 송축하라.
Bendiga o Senhor a minha alma.
Que tout mon être bénisse l'Éternel. À la télé, il y a l'Eurovision qui commence. Enfin, c'est la dernière phase, je crois. Et il y a peut-être une idée de rassemblement derrière cet événement. On y chante des fois en anglais, des fois dans des langues de différents pays. Mais en fait, il s'agit d'une sorte de compétition. Chacun y va avec son message. La parole de Dieu est universelle et à la Pentecôte, elle s'est faite entendre dans différentes langues, dans toutes les langues. Elle rassemble différentes nations. On l'a entendu en coréen, en anglais, en portugais. Et alors, elle nous rassemble, nous aussi, avec nos différentes cultures. Et nous allons chanter ce chant qui dit « Pour toi seul ». Et on ne va pas essayer le coréen pour cette fois. Mais on va le faire en allemand, en français et en espagnol. Alors je vous invite à vous lever pour chanter ce chant qui dit « Pour toi seul ».
Il se peut que ce chant n'est pas trop connu, donc je propose qu'on... Nous, on va le chanter tout d'abord en français, et après on passera. De toute façon, d'après ce que j'ai compris, je suis étranger, j'en sais rien, mais tous les Suisses sont bilingues, allemand, français, voilà, tout le reste. Chanter pour toi, et mon cœur est plein de joie. Quand je peux chanter pour toi seul, ô Seigneur. Oui, je veux chanter pour toi, et mon cœur est plein de joie. Quand je peux chanter pour toi, ton amour est si grand. Oui, tu es tout pour moi, et mon cœur est plein de joie. Quand je peux chanter pour toi. Ton amour est si grand, oui, tu es tout pour moi, et mon cœur est plein de joie quand je peux chanter pour toi.
Voilà, musicalement parlant, c'est pas très difficile. Pour les guitaristes, il n'y a que 3 accords, comme ça ils sont pour une fois pas confus. Donc, blague entre musiciens. On va passer maintenant à l'allemand.
Nur für dich, du mein Gott, nur für dich sing ich so gern. Und mein Herz ist voller Freude, wenn ich singen kann für dich. Nur für dich, du mein Gott, nur für dich sing ich so gern. Und mein Herz ist voller Freude, wenn ich singen kann für dich. Deine Liebe ist so groß, mein Leben nimmt für dich. Und mein Herz ist voller Freude, wenn ich singen kann für dich. Deine Liebe ist so groß, mein Leben nimmt für dich. Und mein Herz ist voller Freude, wenn ich singen kann für dich.
Pour toi seul,
ô Seigneur,
pour je veux chanter pour toi.
Et mon cœur est plein de joie, quand je peux chanter pour toi.
ton amour est si grand. Oui, tu es tout pour moi, et mon cœur est plein de joie quand je peux chanter pour toi.
Sha-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la.
Hey!
Sha-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la.
Hey!
Sha-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la.
Hey!
Sha-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la.
Para ti, oh Señor, para ti quiero cantar. Siento gozo en mi alma cuando canto para ti, oh Señor, para ti quiero cantar. Siento gozo en mi alma cuando canto para ti. Por tu grande amor, eres el máximo, y mi alma se goza cuando canto para ti. Por tu grande amor, eres el máximo, y mi alma se goza cuando canto para ti.
La 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 la.
Merci, vous pouvez vous asseoir. Dimanche dernier, Philippe, qui est malheureusement malade aujourd'hui, nous a parlé d'une écrivaine, blogueuse, auteure de livres, qui malheureusement à l'âge de 37 ans nous a quittés. Elle a parlé de plusieurs choses, et c'est bien, on vient de chanter de la joie, et c'est important qu'on se réjouisse. On dit souvent, comme le psalmiste, « Mon âme bénit l'Éternel ». Souvent, le psalmiste avait besoin de se dire lui-même, « Bénis l'Éternel, mon âme ». On peut se réjouir pour plein de choses. Mais voilà ce qu'a écrit cette écrivaine. Souvent, j'entends des lecteurs de ces livres, qui ont quitté leur église parce qu'il n'y avait pas de chant pour eux à chanter après une fausse couche, une fusillade, un tremblement de terre, un divorce, un diagnostic, une crise, une faillite. La tendance américaine, elle est américaine, la tendance américaine vers le triomphalisme, vers l'optimisme, ancré dans le succès, l'argent et les privilèges, va infecter et saper le fondement de n'importe quelle communauté de foi qui a perdu sa capacité à faire une place à ceux qui sont en deuil. Comme l'expliquent les thérapeutes et soignants, faire de la place pour quelqu'un veut dire s'asseoir à ses côtés, dans sa douleur, sans jugement, ni solution, et rester présent et attentif, peu importe l'issue. La vie est pleine de joie et de tristesse qu'on ne résout pas de manière nette par un accord majeur. Dieu le sait, la Bible le sait, pourquoi nous ne le savons pas. Je vais maintenant chanter un psaume. L'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, vers cette période de l'année, j'ai partagé un message un dimanche matin sur un psaume 27 et aussi un psaume 56, un psaume de lamentation. Ou parfois le psalmiste a envie de dire « Mais où es-tu, Dieu ? Pourquoi j'ai le sentiment que tu m'as quitté ?» Souvent, à la fin de ces psaumes de lamentation, le psalmiste est réjoui parce que Dieu est revenu un petit peu dans sa vie. Je l'ai partagé avec Philippe dimanche dernier, il a dit « Mais pourquoi pas le chanter aujourd'hui ?» Donc, voilà. Je pense que vous êtes les premiers à l'entendre dans un culte.
Longueur de jour, il me persécute. Longueur de jour, il tord mes propos. Ils aimeraient bien provoquer ma chute. Ils me harcèlent, Dieu ait pitié de moi. Si l'ennemi cherche à me dévorer, c'est lui qui succombe à l'effroi. Quand une armée camperait devant moi, rien à craindre, je ne tremblerai pas. L'Éternel est ma lumière, l'Éternel est mon sauveur. De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je peur? Il est ma forteresse, il protège ma vie. De qui aurais-je peur? De qui? Sous ton abri est ma sécurité, hors d'atteinte sur un rocher. Peu importe ce que l'on dit de moi, je n'ai pas peur, je me confie en toi. L'Éternel est ma lumière, l'Éternel est mon sauveur. De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je peur? Il est ma forteresse, il protège ma vie. De qui aurais-je peur? De qui? Ni les épreuves, ni les ténèbres, ni la mort, ni les ennuis, rien ne pourra me détourner de l'assurance de ton appui. L'Éternel est ma lumière, l'Éternel est mon sauveur. De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je peur? Il est ma forteresse, il protège ma vie. De qui aurais-je peur? De qui? L'Éternel est ma lumière, l'Éternel est mon sauveur. De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je peur? Il est ma forteresse, protège ma vie. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? De qui?
Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens chanterai gloire à l'Éternel.
chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as
peuvent rejoindre l'école du dimanche avec leur moniteur.
Bonjour, j'espère que vous vous sentez rafraîchi du fait d'avoir pu exercer votre allemand, espagnol. Marcel, son coréen, il a dit tout à l'heure qu'il prenait des notes pendant cette lecture. Donc j'aimerais remercier, obrigado, thank you, et Marcel, thank you, merci en coréen, non, ok. Thank you very much, wherever you are, Leona. On n'est pas trop loin de Pâques. En fait, dans l'Église primitive, à partir de Pâques, c'était 50 jours de festation, de célébration, jusqu'à la Pentecôte, aussi 50 jours. Et aussi dans l'Église primitive, et encore dans pas mal de liturgies, chaque dimanche est une petite résurrection, si vous voulez. On célèbre de nouveau la résurrection. J'aimerais donc lire avec vous le récit de deux personnes qui, pendant cette période après la mort de Jésus, rentraient chez eux. Il se trouve dans Luc 24, et verset 13. Le même jour, deux de ses disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs,
pas au-dessus de Vevey, mais en Israël, à une douzaine de kilomètres de Jérusalem. Il s'entretenait de tous ces événements, c'est-à-dire tous par rapport à la mort de Jésus et ce qu'ils avaient entendu ce matin-là. Pendant qu'ils échangeaient ainsi leurs propos et leurs réflexions, Jésus lui-même s'approcha d'eux et les accompagna. Mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem qui ne sachent pas ce qui s'y est passé ces jours-ci ? » ?»« Quoi donc ?» leur demanda-t-il. « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un prophète qui agissait, qui parlait avec puissance devant Dieu et devant tout le peuple. Nos chefs, des prêtres, nos dirigeants l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et clouer sur une croix. Nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais hélas, voilà déjà 3 jours que tout cela est arrivé. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont fort étonnés et sont allées au tombeau très tôt ce matin, mais elles n'ont pas trouvé son corps et sont venues raconter qu'elles ont vu apparaître des anges qui leur ont assuré qu'il est vivant. Là-dessus, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous se sont aussi rendus au tombeau. Ils ont bien trouvé les choses telles que les femmes les ont décrites, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Ah, hommes sans intelligence, vous êtes bien lents à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Messie ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire ?» Alors, commençant par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. Entre-temps, ils arrivèrent près du village où ils se rendaient. Jésus sembla vouloir continuer sa route, mais le retint avec une vive insistance en disant « Reste donc avec nous. Tu vois, le jour baisse et le soir approche. » Alors il entra dans la maison pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux, prit le pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le partagea et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent, mais déjà, il avait disparu. Ils se dirent l'un à l'autre, « N'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent sur l'heure et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent les 11 réunis avec leurs compagnons. Tous les accueillirent par ces paroles, « Le Seigneur est réellement ressuscité, il s'est montré à Simon !» Alors les 2 disciples racontèrent à leur tour ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où il avait partagé le pain. On va s'arrêter notre lecture là. Je vais vous montrer une photo. Vous avez deviné c'est ce que j'allais faire. Ah ben voilà, ok. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me dire de quoi s'agit-il? Où est cette photo? Où est-ce que j'ai pris cette photo? Alors apparemment, c'est aux États-Unis, et pour des gens qui sont très instruits comme vous, vous savez déjà plus ou moins même le coin de New York où je l'ai pris. C'est très bien. Qu'est-ce qui est derrière mon dos? Moi, je prends la photo. Qu'est-ce qui est derrière? Si j'allais faire ça... Ah, merci, quelqu'un le connaît. Derrière mon dos, c'est le Statut de Liberté. Je suis sur une île, je visite le Statut de Liberté, je sors et je prends cette photo. À votre avis, il est quel moment de l'année? Ah, c'est l'hiver. Alors, parce que vous ne pouvez pas voir la personne qui a pris la photo, en l'occurrence moi, vous ne voyez pas que je suis habillé avec un bonnet, avec tout un manteau, il faisait moins 15. J'étais aux États-Unis pour des études sur la liturgie. Je n'avais pas mis les pieds aux États-Unis avant, il y a donc, c'était il y a 10 ans, cette photo. Avant 11 ans, je n'avais jamais mis les pieds aux États-Unis. Et là, donc, j'étais en Floride pour ces études. J'ai essayé de dormir chez un de mes camarades de classe. Donc, j'étais à Atlanta. Et puis, j'ai pris l'avion pour aller passer. J'avais 6 heures pour passer à New York, première fois d'y mettre les pieds, avant de prendre l'avion pour retourner en Irlande où j'habitais à l'époque. Et si vous me connaissez maintenant, vous savez d'où je viens. Alors, c'était un jeudi. Et là, un après-midi, je n'avais pas trop de temps, comme j'ai expliqué. Je devais faire le choix entre visiter le Statut de Liberté ou visiter cette île qui s'appelle Ellis Island. C'est là où, à l'époque, en arrivant en bateau aux États-Unis, on s'est inscrit pour être, voilà, pour devenir américain, etc. Et nous, les Anglais, ou les Britanniques, les Irlandais, on raconte pas mal de blagues là-dessus, sur ce qui a dû se passer pendant ce voyage pour que finalement les Américains épellent mal les mots et tout ça. Bref, c'est une blague entre Américains et Britanniques. Alors, je suis là, je prends cette photo. Je rentre dans le Statut de Liberté quelques petites minutes avant de reprendre le bateau. Je me rends compte qu'il y a des hélicoptères, tout d'un coup, qui passent autour de ma tête. Et en arrivant sur le bateau, il y a un des gars qui travaille sur le bateau qui dit à l'autre: il y a un avion qui vient de s'écraser dans la rivière. Maintenant, vous connaissez un petit peu l'histoire. Alors, moi, je me suis dit, aïe, 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 est-ce que tout va être bloqué? Est-ce que je vais pouvoir retourner à l'aéroport? Donc, j'ai vite pris le métro. Je suis allé rapidement voir Empire State Building, le truc le plus haut, où tout le monde se prenne en photo dans la file d'attente parce que c'est tellement lent. Là, ce jour-là, il n'y avait personne. J'ai couru, j'ai fait dans 20 minutes, ressorti, parce qu'il faisait tellement froid. J'ai compris avec les jours après et les infos que ça s'est passé à 3h31 de cet après-midi. Je regarde mes photos et sur cette photo, je vois 3h31. J'essaie de comprendre, mais pourquoi j'ai rien entendu, pourquoi j'ai rien vu, ça me paraît bizarre. J'ai regardé toutes les infos, je ne voyais rien. Et puis, il y avait tout d'un coup, après peut-être une petite semaine, il y avait ce drapeau américain. Vous le voyez, ce drapeau américain. Et puis, derrière ce drapeau américain, il y avait le Statut de Liberté. Alors, moi, je me suis dit, mais attends, je vais essayer de voir. Alors, j'ai fait ce que je suis en train de faire avec vous maintenant, jusqu'à ce que je vois quelque chose ici. Et en vérifiant à plusieurs reprises, j'ai réussi à prendre l'avion quelques secondes avant qu'elle s'est écrasée. Mais j'étais à plusieurs kilomètres, donc j'entendais rien, j'ai rien vu. Il m'a fallu 10 jours après pour me rendre compte que j'avais en fait pris la photo de l'avion juste avant qu'elle s'écrase. Alors bien sûr, il y a 3 minutes, lorsque vous avez vu ma jolie photo, avec une histoire banale d'une petite visite au mois de janvier, votre perspective était tout à fait autre lorsque tout d'un coup je vous ai donné plus d'informations et que je vous ai amené voir un peu la raison pour laquelle je vous montre la photo. Ces deux disciples dont on vient de lire le récit rentraient à Emmaüs. Un voyage de 12 kilomètres. Alors j'ai essayé de réfléchir à la vitesse à laquelle pourrait marcher Daniel, par exemple. J'ai dit, ça doit prendre 2 heures, peut-être 2h30 selon la vitesse. Mais la vitesse normale, à votre avis, ce jour-là, ses disciples, est-ce qu'ils ont couru ou est-ce qu'ils ont marché lentement? Deux disciples qui avaient été avec Jésus, avec les autres à Jérusalem, dont un s'appelle Cléopas. On pense que c'est peut-être Cléopas et son épouse, on ne sait pas. Ils rentraient peut-être chez eux. Pourquoi? Ils étaient totalement déçus. C'était trop lourd à supporter le temps passé avec les autres. Ils discutaient, mais des paroles vides. La tête baissée, ils étaient en deuil, deuil de leurs espoirs. Ils ont vécu la drame du jeudi soir, du vendredi. Jeudi soir, la Pâque, qui après a fini par l'arrestation de Jésus dans le jardin. Ils s'entretenaient de tous ces événements. Puis tout d'un coup, il y a cet étranger qui vient, apparemment, qui va dans le même sens qu'eux. Et nous, on connaît l'histoire. Donc pour nous, on dit, mais c'est dommage qu'ils ne l'ont pas reconnu tout de suite. Ils auraient pu épargner le voyage aller-retour. Ils auraient pu avoir la réponse immédiate à leur souffrance. Ce n'était pas simplement une présence spirituelle, parce qu'ils ont reconnu comme un étranger normal. C'était un être humain, ressuscité, avec sans doute le corps transformé, suffisamment différent pour que physiquement ils ne le reconnaissent pas. En tout cas, cet étranger allait dans le même sens qu'eux. Cet étranger semble avoir raté les infos. Comment est-ce que c'est possible dans une petite ville de Jérusalem à l'époque? On imagine que la bouche à l'oreille passait rapidement. Avec les foules qui étaient là sur le chemin le vendredi, en voyant Jésus aller à la croix, comment cet étranger n'a pas entendu tout ça? Ils ont une réaction triste, mais comment tu peux être le seul à ne pas savoir, à ne pas suivre? Les mêmes nouvelles déjà bien connues. Et puis il dit, mais de quoi parlez-vous? Ils mettent au courant cet étranger de leur discussion, de les événements. Ce Jésus était un prophète puissant devant Dieu et le peuple. Nos leaders spirituels, religieux, l'ont donné à l'occupant, à l'ennemi, c'est-à-dire aux Romains, pour le condamner à mort et le crucifier. Nos espoirs sont anéantis. Il allait sauver le pays, et ça fait 3 jours, donc c'est sûr, il ne revient pas. Notre vie en tant que disciple est finie, vu que le maître est mort. Déception totale, cela n'a pas de sens. Donc leur histoire, c'est une histoire de perte. Celui qui était entré dans leur vie, qui avait changé leur monde, qui leur avait donné une nouvelle perspective, un monde d'opportunités, il parlait du royaume de Dieu, il avait annoncé le pardon, ils avaient tout quitté pour lui. Maintenant, il est mort. Son corps détruit à la main des tortureurs. Il n'est plus personne. Il l'avait perdu, et avec lui, il s'était perdu également. Ils rentrent donc à la maison, mais ils ne se sentent plus chez eux. Leur vitesse est réduite, leur marche lente, leurs paroles vides. Et nous, on connaît l'histoire, on se dit, mais c'était un peu bête, c'est dommage, etc. Mais nous, et la présence de Jésus, on se souvient du moment où Jésus était réel pour nous, où on ne se posait pas la question sur sa présence dans notre vie. Mais peut-être avec les années, on a vécu trop de choses difficiles, trop de maladies, trop de déceptions. On a perdu la vision, perdu l'esprit, perdu la foi qu'on avait autrefois. On n'a plus vraiment désir de passer du temps dans sa présence. On arrive juste à aller au culte et c'est tout. Il est devenu également étranger pour nous. Certaines de ces pertes humaines font partie du voyage. Qu'est-ce qu'on en fait? On est lié à la douleur d'une humanité souffrante. Mais dans cette douleur, il y a peut-être une voix étrange, mais surprenante, une voix qui dit « Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. » Pour nous rendre honneur ce jour-là, ce matin-là, quelques femmes disent ne pas avoir trouvé son corps. Encore plus, elles disent avoir vu des anges qui disent qu'il est vivant. D'autres personnes sont allées vérifier. Apparemment, les femmes avaient raison. Mais personne ne l'a encore vu. Cela nous déstabilise. Mais c'est clair, il ne revient pas. Sinon, il n'aurait pas quitté Jérusalem. Jésus leur dit, homme sans intelligence. Et un changement de scène, c'est maintenant au tour de l'étranger qui parle et il semble qu'il demande leur attention. La randonnée ne va pas être si morose, si lourde. Il paraît qu'il n'est pas prêt à accepter leur vision des faits. Ils connaissaient déjà toute leur histoire, l'histoire du peuple juif. Mais la différence, c'est avec ce conteur. Il semble qu'il est plus proche que toute autre personne qui avait raconté l'histoire du peuple d'Israël. Pour nous, observateurs, il leur donne un indice. Cet étranger en sait quelque chose. Au début de la rencontre, il était apparemment ignorant, mais maintenant, il leur dit que c'est eux les ignorants. Lent à croire. Ce Messie, Jésus, est également le serviteur souffrant d'Isaïe 53, par exemple. Un passage exclu dans certaines Torahs, et aujourd'hui, dans les rues de Jérusalem, il y a des missionnaires qui passent leur temps à aller dans la rue pour parler d'Isaïe 53 et leur demandent à leur interlocuteur de lire le passage et leur posent la question après, mais connaissez-vous quelqu'un qui aurait souffert de cette façon? Jésus commence par le Pentateuque, premiers cinq livres de la Bible, passons aux prophètes, c'est-à-dire la Bible de Jésus, la Bible de l'Église primitive. J'ai un ami enseignant du Nouveau Testament qui dit on a besoin d'écouter Dieu en stéréo. Si on ne lit que le Nouveau Testament, on l'entend qu'en mono, on n'a pas tout le tableau. Jésus se révèle par les Écritures. Et plus tard, ses disciples vont l'expliquer comme le sentiment d'un feu dans leur cœur. Quelle étude biblique! Encore mieux que le mardi soir. Jésus parcourt toutes les Écritures. Il montre la figure de Christ, Joseph, une figure de Christ. On ne sait pas dans quel détail Jésus a parcouru toutes ses écritures, le voyage des 12 kilomètres. On ne sait pas à quel moment Jésus s'est joint à eux. Ils étaient à pied, en sandales. Il n'a pas dit, vous vous rappelez de... Ben finalement, c'était moi, Jésus. Non, il parlait de Jésus en troisième personne. Il y a un petit poème, on va dire. On essaie de tracer peut-être la figure de Christ dans tous les livres de la Bible. Je vais vous donner une toute petite partie. En Genèse, il est le souffle de vie. En Exode, l'agneau pascal. En Lévitique, il est le souverain sacrificateur. En Nombre, il est le nuage par jour, le pilier de feu par nuit. En Deutéronome, il est la ville de refuge, etc. Et nous, Jésus marche avec nous aussi dans notre tristesse. Parfois, on ne sait pas qu'il est là. On peut penser de lui comme un étranger qui sait moins que nous par rapport à ce que je vis en ce moment. De temps en temps, on entend une parole qui nous rappelle qu'il est fidèle. Parfois, on ne veut pas le croire pour maintenant. Mais sa parole est là. On ne peut pas vivre sans les paroles qui viennent de Dieu. Après tout, il a dit, je suis le pain de vie. Des paroles de Dieu qui veulent nous sortir de notre tristesse, qui veulent nous soulever à un endroit où on a une autre perspective sur ce que nous sommes réellement en train de vivre. Paroles lues, dites, peu importe, sont pour nous informer, nous instruire, nous inspirer. Elles rendent Jésus présent à nous. Il s'intéresse quand même à nous. Il veut marcher encore avec nous. Il veut encore nous proposer la vie. Par les paroles de Jésus, il a fait plus que simplement les instruire, ses disciples. Par ses paroles, il est devenu présent. La parole de Dieu crée ce qu'elle exprime, comme l'évangéliste en Jean 1, au début, commencement était la parole et la parole était Dieu. Par ses paroles, il a créé le monde. Genèse 1, parler et créer, c'est le même mot. Dieu a parlé lumière et la lumière fut. La parole de Dieu est pleine de la présence de Dieu. Elle a une puissance transformatrice. Quand quelqu'un dit « je t'aime » ou « je te déteste », Je ne reçois pas simplement d'informations. Ces paroles me font quelque chose. Ils me font ressentir différemment. Ces paroles ont la puissance soit de me guérir, soit de me détruire. Le service de la parole dans l'Église primitive était un sacrement. L'idée, c'est que c'est un événement par lequel Dieu se révèle et demande une réponse. De la même façon qu'il s'est révélé à des individus et à son peuple par sa parole dans l'histoire du salut, ce Dieu-là devient présent en nous. Et pas simplement, il n'est pas simplement le Dieu de notre cœur, mais aussi le Dieu d'Abraham, et Sarah, d'Isaac, Rebecca, d'Isaïe, Jérémie, David, Salomon, de Pierre, de Paul. Le Dieu dont l'amour environne le monde entier. Ceux qui ne parlent pas notre langue, révélés en Jésus, le compagnon de notre voyage. Sans la parole qui nous lève en tant que le peuple de Dieu, nous restons coincés dans la lutte quotidienne de la survie. Sans la parole qui est comme un feu dans notre cœur, nous ne pouvons rien faire que de parfois retourner à la maison, résigner au fait qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais c'est sa présence qui fait la différence. Sa présence qui nous encourage à lâcher prise de nos cœurs endurcis pour le reconnaître pour qui il est réellement. La différence, c'est le changement de perspective. C.S. Lewis a dit, « Si tu penses que tu ne peux pas, tu as probablement raison. Si tu penses que tu peux, tu as probablement raison. » Autrement dit, c'est la perspective qui change. Luc Dumont, de quel on chante quelques chants de temps en temps, il a dit « Le pire ennemi de la vision, c'est la vue. » Le pire ennemi de la vision, c'est la vue. Parce que la vision, ce n'est pas ce qu'on est en train de vivre en ce moment. La vision, c'est pour ce qu'on ne vit pas encore. Pour revenir à notre histoire, Jésus veut aller plus loin, apparemment, que le village où nos randonneurs veulent s'arrêter. Et il doit être un randonneur sérieux. Jusqu'à où va cet étranger ? Les compagnons de route essaient de lui proposer un refuge. Leur maison devient maintenant une auberge pour randonneurs. S'il va plus loin, ça pourrait être dangereux. Donc, le jour baisse, il vaut mieux qu'il reste chez eux. Écoutant cet étranger, il y a un nouveau sens d'espoir, une nouvelle direction. Donc, ils ont envie de passer plus de temps avec cet étranger. Cet étranger qui a tellement changé la donne. De toutes les paroles que cet étranger a dit, il a utilisé le mot « gloire ». Jésus devait entrer dans sa gloire. Auparavant, tout ce qu'ils voyaient les rappelait de leur tristesse du fait que Jésus était mort. Mais tout d'un coup, ils rentrent dans la maison. Rentrer dans la maison devient une bonne chose. Et à la table, cet étranger est devenu notre ami. Jésus n'a pas demandé une invitation, donc c'est au randonneur de lui proposer. Il accepte l'invitation à rentrer chez eux et s'assied avec eux à la table au centre. Jésus est l'invité, mais dès qu'il entre dans leur maison, surtout à la table, il devient leur hôte. L'invité devient celui qui invite. Il fait ce simple geste humain. Il prend le pain, le bénit, il le rompt et puis le distribue. Très ordinaire. Très évident. Tout à l'heure, nous allons faire pareil, geste simple, ordinaire. Mais l'histoire de Dieu, c'est l'histoire de quelqu'un qui veut s'approcher de nous, pour qu'on puisse le voir de nos propres yeux, le toucher de nos mains, pour que rien ne nous sépare. Et puis, à ce déclic immédiat, ils le reconnaissent dans la fraction du pain. Peut-être ils étaient présents derrière lors de la dernière scène du jeudi soir, on ne sait pas. Nous, on lit que sur les 12. Mais peut-être il y avait d'autres qu'observer. Et puis, ils l'avaient vu déjà pour d'autres repas s'ils avaient passé 3 ans avec lui. Leurs yeux se sont ouverts. Le chemin, pendant 12 kilomètres, ils étaient aveugles à la réalité de leur nouveau compagnon de route. Ils étaient un peu sourds à son discours et à sa capacité herméneutique, ignorant de qui pourrait avoir une telle perspective, pas simplement sur les faits des derniers jours, mais aussi sur l'histoire tout entière. Ils avaient raté les indices. aussitôt que le déclic a eu lieu, il a disparu. Tout devient clair. On a senti le feu dans notre cœur pendant qu'il parlait et nous expliquait les Écritures. À la scène, Jésus est Dieu pour nous, avec nous, en nous. Il a tout donné. Il n'a rien retenu. Son sacrifice à la croix était suffisant. On ne vient pas à l'église ou à la scène parce qu'on est des gens religieux, parce qu'on sait bien mener notre vie, mais parce qu'on est pécheur et que notre Sauveur a payé le prix. Voilà la raison pour laquelle on peut le prendre. Le pain de vie rompu pour nous. Le mot qui exprime ce mystère de l'amour sacrificiel de Jésus s'appelle la communion. L'histoire entière de la relation de Dieu avec nous, êtres humains, est une histoire de communion toujours plus profonde. Pas simplement d'unité, de séparation et de réconciliation, mais une histoire dans laquelle Dieu cherche de nouvelles manières à communier de manière intime avec ceux qu'il a créés à son image. La communion, c'est que Dieu veut, c'est ce que Dieu veut et ce que nous on veut aussi. Le cri profond de Dieu devient le cri de notre cœur parce qu'on est créé avec un cœur qui ne peut être satisfait que par celui qui l'a créé. Le mystère de l'Eucharistie, un mot qui veut dire simplement action de grâce, la scène dépeint la communion la plus profonde avec Jésus et celle qui a lieu dans son absence. La communion avec Jésus veut dire devenir comme lui. Avec lui, nous sommes cloués à la croix, mis dans le tombeau, ressuscités pour accompagner des rendeurs perdus sur leur voyage. Dans le royaume de Dieu, les distinctions entre bonheur et tristesse, succès et échec, louange et culpabilité, santé, maladie, vie et mort n'existent plus. Nous n'appartenons plus au monde qui continue à diviser, juger, séparer, évaluer. Nous appartenons à Christ et Christ à nous. Avec le Christ, nous appartenons à Dieu. La communion crée la communauté parce que le Dieu qui habite en nous nous aide à reconnaître Dieu dans notre prochain. Nous pensons à la scène comme celui qui nous invite à sa table, à son repas. Mais Jésus veut être aussi l'invité dans notre cœur, l'invité dans notre vie. Il ne force jamais son entrée, comme l'a fait d'ailleurs avec ses disciples. Et à moins qu'on l'invite dans notre vie, il restera toujours un étranger, avec qui on a peut-être une conversation intéressante lorsque ça va très mal, mais un étranger quand même. La scène nous rappelle que nous devons accepter notre co-responsabilité pour le mal qui nous entoure. Lorsqu'on reste coincé dans nos plaintes, de nos circonstances difficiles, nous n'arrivons pas à cet endroit d'un cœur brisé, contrit. La scène est une invitation à la grâce. Un mélange de désespoir, parce qu'on doit reconnaître qu'on est pécheur, sans espoir. Mais d'espérance parce que Jésus est mort à la croix, il est ressuscité. Lors de la scène, on ne dit pas simplement « c'est intéressant cette histoire de Jésus », mais on dit « je mets ma confiance en toi, mon être, corps, esprit et âme, je ne veux pas garder des secrets de toi ». Jésus se révèle comme le bon berger qui nous connaît de manière intime et nous aime quand même. Est-ce qu'on veut être connu par lui ? À marcher de manière libre dans chaque pièce de notre vie intérieure. La table est le lieu d'intimité. On sait qu'il y a l'amitié et communauté. Ou haine et division. Il n'y a pas d'endroit intéressant pour juste on reste à l'écart lorsqu'on est en train de manger à la table. Jésus disparaît. Il retourne à Jérusalem. Les 12 kilomètres, finalement, n'étaient qu'une balade. Maintenant, aller-retour, ça fait 24 kilomètres. Quelle était la discussion à deux sur le retour? La vitesse est augmentée. Chaque personne qui rencontre réellement Jésus ne peut qu'être changée. Quelle différence entre le randonnée à la maison et ce retour à Jérusalem. La différence entre doute et foi, désespoir et espérance, peur et amour. La différence entre deux êtres humains désespérés qui se traînent le long du chemin et deux amis marchant rapidement, même parfois en courant, heureux pour la nouvelle qu'ils vont pouvoir annoncer à leurs amis. Nous, on a l'histoire entière de la vie, de la mort, de la résurrection, mais on est quand même parfois incrédule. Notre connaissance cérébrale n'est pas suffisante pour vivre la réalité de la communion avec Jésus. On peut être même un professionnel de la religion et ne pas connaître Jésus personnellement, si on n'a pas ouvert notre vie à Jésus. C'est uniquement lorsque le Saint-Esprit nous révèle Jésus, nous ouvre les yeux. Parfois, en tant que chrétien, on se laisse de nouveau aveugler par les circonstances, par ce qui semble être la non-réponse à nos prières. Et on a besoin d'un renouveau de son Saint-Esprit à nous révéler Jésus à nouveau pour changer notre perspective sur notre vie, pour sentir de nouveau le feu dans notre cœur et reconnaître qui nous sommes en lui et vers quoi il nous a appelés à vivre. Vivre dans la réalité de la résurrection. Le christianisme demeure ou peut être détruit par cette histoire de la résurrection. Soit il est mort et qu'il n'est pas ressuscité, soit il est ressuscité, il est vivant aujourd'hui. Et s'il est vivant, il est le roi des rois. Il est le seigneur des seigneurs. Il est celui qui a tout donné pour que chaque individu sur cette terre puisse le connaître. Il a gagné la victoire pour nous sur le péché, la mort et les puissances diaboliques qui essaient de nous détruire souvent. Prions ensemble. Seigneur, change notre perspective. Aide-nous à voir qui tu es réellement. Merci parce que tu es ressuscité, tu n'es pas resté dans le tombeau. Tu as vaincu la mort, tu as pris nos péchés pour qu'aujourd'hui on soit libéré. Merci pour la scène qu'on fait souvent pour nous rappeler avec des éléments banals de tous les jours que ton corps a été rompu pour nous, que tu as donné ton sang pour nous. Merci que tu es ressuscité, que nous pouvons te faire toujours confiance, même dans les temps difficiles, même lorsqu'on ne voit pas d'issue. Merci pour qui tu es réellement. Au nom de Jésus. Amen.
Avant de passer à la scène, on voulait encore ensemble aussi prier en ouvrant pour intercéder pour cette parole qui est pas seulement ici, on l'a lu dans plusieurs langues, mais qui se retrouve dans le monde entier. Alors je vais simplement prier pour ouvrir ce temps aussi. Seigneur, merci pour la parole que tu nous as donnée et la chance que nous avons de pouvoir vivre ce culte dans ces conditions, de pouvoir vivre notre foi comme nous la vivons aussi. Mais c'est vrai que pour beaucoup, c'est beaucoup plus compliqué. Et nous te remettons tous ceux qui souffrent à cause de leur foi, qui souffrent à cause de ce message que tu fortifies les églises, mais que tu fortifies aussi les individus dans tous ces pays où il y a de la persécution, où il y a des critiques qui sont faites, des choses qui sont plus difficiles. Alors Seigneur, nous te remettons tous nos frères et sœurs parce que c'est vrai que nous ne sommes pas seuls ici à profiter de ta parole. Mais ton message est destiné à chacun alors que tu accompagnes tous nos frères et sœurs. Amen. Effectivement, quand je lis ou médite ce passage des disciples d'Emmaüs, je suis parfois dans le même état d'esprit, dans le sens que je peux être un peu perdu ou triste, ou alors sans intelligence, comme c'est marqué dans le texte, dans le sens que je ne comprends pas bien ce qui se passe. Et quand je reprends cette histoire, il y a un feu, effectivement, qui s'allume en moi. Comme ces disciples qui se disent, au moment où Jésus rompt le pain, il y avait comme un feu dans notre cœur lorsqu'il nous parlait en chemin. Alors que Dieu ouvre notre cœur, maintenant, qu'il ouvre nos yeux, que nous puissions réaliser l'étendue de sa grâce. Et comme l'a dit David, réaliser l'étendue de sa grâce, c'est aussi réaliser l'étendue de notre péché et du besoin que nous avons du salut qu'il nous offre. Alors je vais lire l'institution dans Matthieu. Au cours du repas, Jésus prit du pain, puis après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux, puis il le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ensuite, il prit une coupe, et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes, afin que leurs péchés soient pardonnés. Je vous le déclare, désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Alors on va passer distribuer à l'offrande. Est-ce que les musiciens, vous pourriez nous aider? Merci beaucoup. Pendant ce temps-là, vous pouvez prier. Je rappelle que au centre, les petits gobelets en couleur, c'est du jus de raisin. Autour, c'est du vin. Et puis, si vous voulez communier avec la coupe, faites signe, on passera vous l'amener. Merci de ce temps de partage, ce pain et ce vin. Que tu renouvelles ta vie en nous, que nous puissions continuer notre marche à tes côtés. Et merci pour tes promesses, parce que un jour, bientôt, nous pourrons partager ce repas avec toi dans ton royaume. Amen. Alors pour poursuivre, on va reprendre un chant et on prendra l'offrande, on va récolter l'offrande pour durant ce moment-là, un chant qui est cher à David.
Sauveur, ô Maître, dirige mes pas, que mes regards ne s'attachent qu'à toi, que rien ne vienne troubler mon esprit. C'est ma prière le jour. Sagesse, parole de Dieu, fais que mon cœur s'abandonne à tes vœux, qu'il me conduise au plus près de mon âme, puisqu'être fils de Dieu m'est si cher.
invite de vous lever pour chanter.
Que rien sur terre, que nul ici-bas, n'offre à mon âme autre chose que toi. Tu es le seul à pouvoir me combler, mon héritage, ma joie et ma paix. Clarté divine, victoire infinie, que ce soit toi qui soutienne ma vie sur ta lumière attendant. Je veux garder mes yeux chaque jour.
Merci Seigneur de pouvoir te remettre cette partie de nos biens, que nous puissions toujours le faire avec joie et nous souvenir que tout nous vient de toi. Que tu bénisses cet argent, ceux qui le gèrent, ceux qui en bénéficient, et qui puissent servir ici, auprès, à Mérin, à Genève, mais aussi au loin, partout où ta parole est répandue. Amen. Voilà, vous pouvez reprendre place. Il nous reste les annonces. Encore, et je crois que c'est Sylvain, ouais. Merci.
Voilà, donc le nouveau mémo est disponible. Vous le trouvez aussi sur le site internet. Pour ceux qui ne sont pas membres sur site internet, je vous invite à le faire parce que vous avez le mémo, vous avez aussi des enregistrements du culte, vous pouvez retrouver d'autres informations. Voilà. Alors, mardi prochain, mardi soir, Voilà, le nouvel atelier biblique, la suite de la, c'est toujours Philippe qui le fait ce mardi, c'est Claude, d'accord. Du carburant pour l'espérance, enfin on est toujours autour de ce livre de l'Apocalypse, et c'est super intéressant, donc venez nombreux. Ah, il s'éteint mon téléphone, bon, là. Walk and Pray, 21 avril au 30 mai, donc... prochain rendez-vous au CEPOM à 18h30. Donc le CEPOM, c'est Centre paroissial œcuménique, pour ceux qui ne sauraient pas, juste là où il y a le grand parking et le centre commercial. Et là, les personnes vont prier et parcourir, je ne sais pas quelle ville, voilà. Amérin, oui, voilà. Et puis, c'est autrement cette semaine, jeudi soir, il y a la rencontre des deux conseils, hein, c'est-à-dire le conseil de la paroisse protestante et le conseil de notre église, qui se rencontrent deux fois par année pour faire le point de ce qu'on fait en commun. On fait beaucoup de choses en commun, comme les cultes d'été. Et voilà, on va parler de toutes ces choses. Le catéchisme, vendredi, c'est quelle heure? Ah oui, 19h, voilà. Et puis dimanche prochain, le culte ici à 10h, comme d'habitude. Et cette semaine encore, pensez à nous, c'est un peu moi qui m'occuperai de l'animation cette année. Ethnopolis est un grand jeu pour les enfants de 11 ans. Ils parcourent toutes sortes de stands, ils passent environ 20 minutes à chaque stand, et puis on leur présente différentes choses. Alors je crois qu'il y a plusieurs personnes de notre église qui ont des stands. Je crois que Zéna en a un, c'est ça ? Je crois que Denise Félix en a un chez eux aussi. On en a un dans notre église et le thème, c'est autour des langues et de la traduction. Donc, ça donne l'occasion de parler de la Bible, de la langue dans lesquelles elle était écrite, des centaines de langues dans lesquelles elle est entièrement traduite. Et voilà, c'est... Et puis, je leur parle naturellement un peu du Laos, puisque c'est le pays auquel je reste très lié. Voilà. Ah oui, Journée d'évangélisation mondiale. Ah oui, samedi 25 mai. D'accord. Moi, je n'ai pas beaucoup plus d'informations sur ce qu'il y a dans cette journée. Est-ce que quelqu'un a... C'est Thierry qui sait. Non, mais bon, c'est... D'accord, ok. Alors, moi, j'assume. Mais passez la suivante pendant qu'il vient. Donc, la sortie du fil d'argent, voilà, il arrive. La sortie du fil d'argent est mardi 25 juin. On envoyait un message à certains. Je ne sais pas si vous avez trouvé des chauffeurs et chauffeuses pour vos... pour ce... Ah, mais c'est que Marianne Pfund qui sait, je pense, et elle est à la garderie. Ok, alors on revient à cette journée d'évangélisation. Tu nous expliques.
Alors, j'essaie de vous expliquer. Tout n'est pas encore ficelé, prévu, mais ça va être cette journée du 25. Jeudi prochain, sauf erreur, on va se voir. De 11h à midi, pour ceux qui sont intéressés à partager un petit peu des idées, justement pour ce qu'on va faire pendant cette journée. Donc, si vous dites, voilà, moi j'ai une idée ou j'aimerais participer à cette conversation, ben, venez, si vous le pouvez, bien sûr, jeudi au CEPOM à 11h. Et puis, avec cette petite équipe, on va décider ce qu'on va aller faire dans les rues de Meyrin ce jour-là, le 25. Donc voilà, le programme n'est pas encore ficelé, mais certainement qu'on commencera le matin, vers 9h30, 10h, on aura une réunion, de la louange, on va expliquer comment ça va se passer pendant la journée. Et puis l'après-midi, eh ben, on ira dans les rues avec un, deux, trois projets, je ne sais pas encore, qu'on aura décidé de faire en collaboration avec l'Église réformée ici à Meyrin. Et puis voilà, on va aller rejoindre Meyrin, on va aller à la rencontre de cette population de différentes manières. Il n'y a pas une façon de faire pour aller à la rencontre de nos concitoyens, mais on a envie de saisir cette opportunité pour aller dans les rues et puis à la rencontre des gens. Voilà. Alors, réservez cette date si possible. Merci.
Voilà, merci Thierry. Excellente occasion de sortir de nos murs. Donc, je redis donc l'information qu'on cherche pour le fil d'argent des accompagnateurs et des chauffeurs pour cette sortie, pour aider, voilà, ils n'ont pas tous des voitures. Donc, si quelqu'un se rend disponible, ils vont sortir à Roll, ils peuvent s'adresser soit à Marianne Pfund, soit à André Dufour. Mais je crois qu'elle est, je ne la vois pas, André. Bon, voilà. Je crois que c'est tout. Hein. Voilà.
Je voulais juste vous remercier pour votre soutien et vos encouragements. On a eu le concert hier avec Hortus, ça veut dire Clément, Philippe, Mathieu, moi et Alexia qui n'est pas là ce matin. Et on est vraiment content de pouvoir avoir fait ça pour vous. Et je voulais repasser l'annonce qu'il y a 3 ans, l'été 2016, on a passé une semaine ici dans l'église à enregistrer. Et en fait, le CD est enfin sorti. Donc si vous voulez, si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter. Et les paroles, malheureusement, n'ont pas été imprimées avec les CD. Donc, nous, on a déjà mis sur le site internet toutes les paroles et les partitions. Si vous avez aussi des questions, vous pouvez aussi... Voilà. Merci beaucoup.
Je vous invite à vous lever pour la bénédiction. Le Dieu qui donne la paix a ressuscité notre Seigneur Jésus, qui est devenu le grand berger des brebis en scellant de son sang une alliance éternelle. Que ce Dieu vous rende capable de faire le bien sous toutes ses formes pour que vous accomplissiez sa volonté, qu'il réalise lui-même en nous par Jésus-Christ ce qui lui était agréable. À lui soit la gloire pour l'éternité. Amen. Bon dimanche à tous.